volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Je reçois aujourd'hui Germain Récamier, auteur de la pièce Lennon et McCartney, qui se joue à Paris actuellement au théâtre Le Funambule. Bonjour Germain, bienvenue dans le volume sur 11.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Alors comment est née cette envie de raconter cette rencontre entre John Lennon et Paul McCartney ?
Alors je suis un fan des Beatles depuis très très longtemps, depuis mon adolescence. En fait, c'est un ami au lycée qui m'a fait découvrir les Beatles. Il m'a fait une cassette, comme on faisait à l'époque. C'est un peu les moyens de l'ancien temps. Les millénials ne peuvent pas connaître. J'étais tout de suite pris par sa passion. Il me l'a communiqué. Et j'ai très rapidement commencé à me documenter. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Alors, j'allais dans les bibliothèques et j'allais compulser les livres sur les Beatles. Il y en avait même un qui racontait l'histoire des Beatles jour par jour. J'imagine la taille du volume du bouquin, quoi. Et même les détails que j'ai pu glaner à l'époque, moi je m'en suis servi pour la pièce. Et j'ai essayé après de me renseigner et d'aller voir l'histoire derrière la musique, parce que je suis aussi un féru d'histoire. J'aime bien connaître l'historique des choses, le contexte historique des choses, même des œuvres classiques, j'aime bien connaître un peu le contexte. Et tout ce que j'ai pu trouver, lire sur le sujet. Et puis comme mes amis savent que je suis un fan des Beatles, ils m'ont offert quantité de livres sur le sujet. Et puis bien sûr, j'ai écouté les archives, lu des articles en anglais. Mais je le faisais sans effort, hein. J'avais pas dans l'optique d'écrire une pièce sur les Beatles. C'était vraiment quelque chose que je faisais de façon par goût, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis, parallèlement, j'ai commencé à écrire ma carrière dans le théâtre. C'est-à-dire que j'ai pris des cours de théâtre, j'ai fait du one-man show, j'ai écrit des sketchs. Plus tard, j'ai écrit des pièces de théâtre. Et puis un jour, j'ai voulu écrire une pièce sur un groupe de musique. Voilà. Alors j'en ai écrit une avec sur un groupe fictif que j'ai pas trouvé satisfaisante parce que inventer une biographie c'est quand même pas simple. Hein. Faut être Tolkien pour inventer une bio de toute pièce comme ça et qu'elle soit cohérente. Donc elle était trop compliquée cette pièce et je me suis dit mais en fin de compte tu connais très bien les Beatles. L'histoire que tu viens d'écrire s'inspire un peu des Beatles en fin de compte. Pourquoi t'écrirais pas sur eux puisque t'as déjà toutes les billes qu'il te faut. Alors, je me suis renseigné, je me contactais une juriste en droit de la propriété intellectuelle, voir ce qui était autorisé. Ah oui. J'ai réalisé que je pouvais écrire. En fait, l'obligation, c'est de ne pas faire offense aux personnes qui sont racontées dans la pièce, qui est quelqu'un. Ouais. J'avais le droit de le faire. Voilà.
D'accord.
J'ai même le droit de chanter des morceaux. Alors, bien sûr, il y a des droits à payer et tout ça, mais en tout cas, je suis autorisé à le faire. Alors, c'est marrant que personne n'y ait pensé. C'était la première réaction. Comme Paul McCartney, quand il a écrit Yesterday, s'est demandé si quelqu'un n'avait pas écrit ça avant. Bah là, je me suis posé la même question. Je me suis dit, mais en fait, l'idée est tellement évidente que ça a dû être fait avant, en fait. Mmh. Et j'ai regardé, en fait, non. Alors, des groupes, des cover bands. C'est-à-dire, ces groupes qui reprennent les chansons, ça, il y en a à l'appel.
Oui, les Rabbits, par exemple. Enfin,
voilà, les Rabbits, mal, hein. Les Bootleg Beatles, tout ça. Il y en a, mais une pièce sur les Beatles, non. Des films ont été faits sur certains pans de leur vie, mais sur ce sujet, non. Voilà. Ouais. Et comme moi, j'écris beaucoup sur l'amitié aussi, c'est à peu près le thème central de ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, et bien tout ça se reboucle, et puis j'ai écrit cette pièce. Voilà. Ouais.
Alors c'est une rencontre fictive donc, qui se passe autour de Thanksgiving en 1980, donc quelques semaines avant l'assassinat de John Lennon.
Bonjour.
À ta connaissance, en fait, quelles ont été leurs relations? Je sais que ça a été, ils ont échangé par chansons interposées, ils se sont balancés tout ce qu'ils savaient sur le cœur, mais est-ce qu'ils ont eu des rencontres entre la séparation des Beatles et justement cette année 1980?
Ouais, il y en a eu effectivement, tu viens de le dire, il y a eu une brouille qui a duré quelques années entre John et Paul. chacun s'accusait des mots de la fin des Beatles, d'avoir provoqué cette fin, d'avoir profité de la notoriété du groupe. Ça a duré 4 ans à peu près, et puis Paul est revenu voir, mais c'est raconté dans la pièce, du coup je vais pas spoiler, mais Paul est venu et a rejoint John lors d'une séance d'enregistrement, et puis il y a eu 2-3 ans où ils se sont vus assez régulièrement à New York chez John. Il a regardé la télé comme ça, passé un moment ensemble et tout, donc ils étaient vraiment réconciliés, hein. Ouais. Et puis ils ont cessé de se voir à peu près vers 76.
Ouais.
Pas à cause d'une brouille forte, hein, c'est que en fait c'est comme des amitiés qui se délitent un peu, quoi. Les gens restent attachés et puis ils ont autre chose à faire. Vous savez, quand vous avez un ami qui commence à habiter loin, ouais. Ce qui était le cas, John à New York, Paul à Londres.
Oui, ça se délite naturellement, on va dire.
Ouais, ça veut pas dire forcément que les gens s'oublient, c'est que c'est long d'aller là-bas, de rendre visite. On le fait quand on est jeune, puis après moins. Donc ils s'appelaient de temps en temps. Et Paul a appelé John peu de temps avant sa mort, d'ailleurs. Donc ils étaient en contact. Hein. C'est juste que la route avait pris des chemins, des directions différentes et. Voilà quoi.
Parce que à cette période, là, John est devenu effectivement, comme c'est très bien raconté dans la pièce, un parfait homme d'intérieur. Il s'occupe de Sean. Enfin, il fait les. Voilà, il regarde la télé. C'est la période après le fameux Lost Weekend. J'aurais pu à me rappeler chronologiquement la période où il va en Californie. Il passe son temps à se bourrer la gueule avec Ringo, avec Harry Nilsson, je crois. Ouais.
C'est ça, ouais. Bah, tu es aussi bien documenté que moi, effectivement. Oui. 73-74, à peu près, c'est cette période où il se sépare de Yoko, et puis il part à Los Angeles, il fait beaucoup de conneries, il boit, il se bagarre, il fait des enregistrements un peu erratiques. Il y a quelques bonnes chansons qui sont tirées de cette période. Mind Game, c'est un excellent album qui est un peu le résultat de cette période-là. Oui. C'est un peu un regain de forme de John qui était... voilà, qui venait de faire des choses pas forcément très, très inoubliables. Mais voilà. Donc en 74, il retourne voir Yoko. Et puis en 75, Ney et Sean.
Ouais.
Et puis de 75 à 80, il produit quasiment plus rien. Voilà, ouais. C'est vraiment... il est devenu, comme tu l'as dit, très justement, un petit homme d'intérieur avec tablier. Il va chercher Sean à l'école. Il passe des moments en famille. Il est un peu bridé par Yoko, mais de son propre chef. Hein.
Ouais.
Yoko passe souvent pour la mégère de service, mais c'est ce que voulait John et c'est ce dont il avait besoin. Il avait besoin qu'on le cadre. Ouais. Et donc, effectivement, à cette époque-là, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait grand-chose. Il vient de sortir un disque. Et moi, c'est mon avis personnel, mais je trouve que le disque de John, là, et c'est un peu de la musique d'ascenseur, je trouve.
Tu veux dire Double Fantasy?
Oui, voilà.
C'est un demi-disque, en fait.
Oui, c'est moitié Yoko.
Mais genre, parce que la moitié des morceaux sont avec Yoko.
Ouais, tout à fait, ouais. Mais je connais moins les chansons de Yoko. Mais enfin, celle de John, c'est très produit, très polissé, très... c'est pas exceptionnel. Enfin, je suis pas un grand fan. On est loin des œuvres novatrices, des essais, des tentatives. Donc je suis pas très emballé par sa renaissance de l'époque. Bref, en tout cas, il vient de sortir ce disque et puis il montre des velléités de revenir un peu dans le business.
Et alors, on sent effectivement la complicité, enfin dans la pièce, on sent vraiment la complicité entre les deux. C'est effectivement, comme tu disais, deux vieux copains qui se retrouvent. Alors, ils se moquent gentiment de George et de Ringo. Beaucoup plus de Ringo d'ailleurs. George, c'est un peu à part. Ils sont cruels quand même avec George, parce que George a sorti quand même, un triple album, All Things Must Pass, montrant quand même qu'il en avait sous le pied, et c'était un peu le résultat de sa frustration des 8 années au sein des Beatles, non?
Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Alors non, on se moque des deux. Hein. Il se moque pas de Ringo, c'est plus gentil, parce que Ringo, en fait, c'est le bon poteau dans le groupe, hein, c'est le garçon gentil. À l'époque du blond, ça n'allait vraiment pas bien l'ambiance. Ringo a subi un climat absolument épouvantable. On le faisait attendre dans le que les gens soient prêts. C'était presque devenu un musicien de studio, Ringo. Ouais. Pendant l'enregistrement du blanc, là. Donc, du coup, c'est plus quelque chose de sympa qu'ils ont vis-à-vis de lui. Et George, c'est un peu plus. Oui, ils ont de plus en plus de véhémence. Bah, ce qui se passe avec John, George, tu viens de le dire. Hein. C'est un garçon qui a maturé son talent pendant plusieurs années et qui a été longtemps considéré par John et Paul comme le petit frère qui essaye de.
Ouais.
Voilà. Et même quand il a commencé à produire d'excellentes chansons, voire des chansons formidables, par nature, il était toujours considéré comme le petit frère qui essaie d'égaler les deux grands. Voilà. Mmh. Et ça continue jusqu'à la fin de. Non, à Abbey Road, le tout dernier album des Beatles, Abbey Road, John et Paul ont vraiment réalisé que là, il avait passé un cap et qu'il était devenu quasiment leur égal.
Ouais.
Donc, le résultat de tout ça, c'est que George a nourri une certaine rancœur vis-à-vis de Paul, notamment parce que il connaissait Paul à la base. Hein.
Ouais.
Ils sont croisés dans un bus en allant à l'école. Et c'est Paul qui a présenté George à John. Donc, en fait, en quelque sorte, Paul est un peu vraiment le grand frère de George.
Ouais.
Voilà, ils ont un an d'écart, un peu plus. Ce qui est beaucoup à l'époque, hein, quand on a 15 ans. Donc voilà, et puis c'était une époque où, précisément, lorsque George monte en puissance dans le groupe, ben c'est Paul qui prend les rênes du groupe.
Ouais.
Et il a un côté un peu dictateur, voilà, ouais, à imposer ses chansons, à vouloir que ce soit les siennes qui sortent en 45 tours.
Ouais.
Donc ça correspond vraiment à une période où Paul prend un peu le lead, et étouffe encore un peu plus George, qui, comme tu viens de le dire, hein, produit ses meilleures chansons, et qu'il va sortir en massivement sur son trip album All Things Must Pass, des chansons qu'il a composées majoritairement pendant les Beatles, et on réalise que bah voilà, il était un talent qui est arrivé à complètement maturité, quoi. Donc voilà.
Ouais. Il y a quelques trucs dans la pièce que j'ai beaucoup aimé, notamment entre autres cette fameuse effectivement petite polémique où quand Paul réussit à obtenir sur des rééditions que l'ordre des noms des auteurs soit inversé en sa faveur, que ce soit McCartney-Lennon et pas Lennon-McCartney.
Ouais.
Ce qui donne un côté un peu mesquin au personnage, alors que Paul était quand même, avait l'image du mec sympa. John était plus fielleux. D'ailleurs, on le voit. Là aussi, il y a des images d'archives pendant la pièce qui sont exceptionnelles, notamment quand on entend des interviews de John avec son accent absolument incompréhensible. Mais Paul a toujours l'image d'un mec sympa, en fait, pas si sympa finalement.
Oui, sympa. Alors, cette histoire de McCartney et Lennon, j'ai jamais su si c'était du lard ou du cochon, si c'était vrai ou pas. C'est un peu une légende urbaine. Peut-être qu'il a émis l'idée, mais il a pas dû beaucoup insister. Il y a une dualité chez Paul. En fait, il y a effectivement un côté très sympa. Parce que c'est quelqu'un de solaire, Paul. C'est quelqu'un de. Déjà, il a une énorme confiance en lui. Et ce, contrairement à John qui en a très peu. Paul, lui, alors quand on a énormément confiance en soi, j'ai remarqué, on est souvent sympa parce qu'on n'a pas besoin de mécanismes de défense. On n'a pas besoin de rentrer dans l'art des autres. Paul, il n'a pas besoin de ça. Il sait qu'il a du talent. Donc, il est toujours persuadé. Voilà, c'est un peu un rock, Paul. Et ben, comme il se remet de toutes les épreuves, bah effectivement, il a un côté, il a une approche, il a une belle assurance. Oui, dans ses interviews, il y a un peu de taquinerie, il est très relâché, et en même temps très drôle. Voilà, donc c'est un peu l'image qu'il a. Et paradoxalement, comme il est très fier de lui, il était assez jaloux de ses prérogatives. Et comme John est mort, c'est un peu le gardien de la légende, de la mémoire des Beatles. C'est plus que Ringo et lui, mais c'est lui qui incarne la créativité des Beatles.
Ouais,
voilà, il peut avoir un côté un peu mesquin chez lui. Il peut, ça, c'est possible.
Est-ce que après avoir écrit la pièce, tu as cherché à le contacter ou tu lui as envoyé quelque chose dire voilà, Monsieur McCartney, j'ai écrit une pièce sur votre histoire.
Alors non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas réellement intérêt à ce que Paul voit la pièce parce que je vois pas ce que ça peut m'apporter en réalité, à part un peu de pub sur les réseaux rapides.
Ouais.
Bon, et il peut très bien mon... Je suis en train de parler un truc comme si Paul allait voir ma pièce, quoi. Quand j'aurais ce problème, j'en aurais plus trop, des problèmes. Mais en fait, je me dis, voilà, il peut très bien... On parle de quelqu'un de vivant, voilà. Je suis en train d'imaginer quelque chose sur lui. Il peut très bien dire, écoute, mon garçon, ben non, quoi, t'arrêtes.
C'est pas du tout voilà. Ça, ouais.
Donc, je vois pas trop ce que ça pourrait m'apporter. Donc ouais. j'ai pas essayé. Voilà. Ouais. Je sais qu'il a embêté, par exemple, les Monty Python. Notamment Eric Idle, qui avait écrit une série sur des faux Beatles, appelée The Ruttles.
Ouais.
Et qu'il a embêté un peu Eric Idle, parce que les chansons, dans la parodie, ressemblaient trop à celles des Beatles.
Ouais.
Il est un peu comme ça, Paul. Donc, il risque voilà, de tiquer un peu. Voilà.
Ouais.
Même si dans la pièce, bon, bah, je pense qu'il est plutôt présenté sous un jour plutôt favorable.
Oui, objectivement, il n'y a pas de polémique sur Paul. Bon, il y a quelques moqueries sur Yoko. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, je crois que Yoko, il y a encore des polémiques sur Yoko. Je crois qu'elle reçoit encore une reconnaissance pour son œuvre. Je ne sais pas si elle est.
Oui, elle a reçu une médaille. J'ai vu.
Elle a reçu une médaille et j'ai vu sur les réseaux le débat est reparti entre les pro-Yoko et les anti-Yoko. On est quand même 54 ans après la fin des Beatles et j'ai l'impression que le débat n'est pas clos.
Non, il n'y a pas tellement de pro Yoko, je crois. Yoko, on en parle dans la pièce, mais en réalité, c'est qu'une toute petite partie du problème. Je dirais même que c'est une conséquence du problème, Yoko. Mm. Alors oui, j'en parle parce que les gens attendent ça. J'en parle, mais c'est pas elle qui a provoqué la séparation des Beatles. C'est multifactoriel. Mm. Mais en fait... Même à la rigueur, on peut dire que Yoko a un peu sauvé les Beatles, si je pense un peu bizarrement. John était une période où il se séparait de Cynthia, il allait pas bien, il sortait pas du lit, il regardait la télé toute la journée. Il était un peu dans une ambiance morose. Et il a rencontré Yoko qui l'a mis sur une autre dynamique. Voilà.
Ouais.
Une dynamique qui plaisait pas aux autres membres du groupe, mais dans une dynamique.
Ouais.
Et je pense que c'est en partie grâce à elle que John s'est remis à composer, à faire de belles chansons depuis l'album Blanc,
ouais.
Où là, il est revenu à son niveau de productivité d'avant. Ouais. Donc, on peut l'accréditer d'avoir remis le pied à l'étrier à John.
Ouais. Et en plus, en l'ouvrant vers d'autres horizons qu'il ne connaissait pas forcément, comme l'art contemporain.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, avec plus ou moins de bons résultats,
bonheur, ouais.
Puisqu'en fait sur l'album Blanc, c'est très connu, sur l'album Blanc il y a un morceau qui fait 9 minutes et quelques qui s'appelle Revolution 9,
ouais.
Qui est un collage de sons absolument inaudibles, et c'est en fait l'œuvre de Yoko et John,
ouais.
qu'ils ont badgé Beatles comme ça. Donc bon, c'est pas toujours heureux comme montage, et puis à l'époque ils faisaient à deux des morceaux expérimentaux, que moi je n'ai pas écouté, mais qui paraît-il sont inaudibles.
Oui, oui, ça fait partie des légendes du rock comme Metal Machine Music de Lou Reed ou des trucs qui sont comment dire compliqués.
Il faut avoir une oreille avertie.
Ouais. Ouais. Et alors tu me parlais donc ta découverte des Beatles, donc un copain qui te fait une cassette, etc. T'es quoi, t'es plutôt album bleu, album rouge ou c'était une compile de différents albums? Et finalement, est-ce que dans tout ça, tu as un album des Beatles avec le recul aujourd'hui qui est l'album absolu, ton préféré?
Ouais, alors, pour la première question, c'était plutôt bleu, son enregistrement.
Ouais.
Bon, il y a deux périodes Beatles, la période rouge et la période bleue, on va dire, puisque c'est vraiment de compilations qui reprennent ça. Il y a les périodes live et les périodes studio,
ouais.
Les périodes tournées, les périodes studio. Mmh. Donc, on est un peu sur des chansons « Je t'aime, est-ce que tu m'aimes » au début, qui sont très bien goupillé avec beaucoup d'innovations. Et puis la période où ils ont arrêté à partir de 66 les tournées, et là ils se sont concentrés sur leur travail en studio, et là c'est là qu'on 65, 69, c'est là où on a les plus grandes innovations du groupe en termes d'enregistrement studio. Donc c'est celle-là que je préfère, parce que c'est là où on a les plus grosses avancées en matière musicale. Et un album que je préfère, et bien c'est mon album de cœur, c'est Abbey Road, c'est le tout dernier, parce que c'est celui qu'avait acheté ma mère à l'époque, que j'ai toujours écouté étant gamin, Elle adorait Here Comes the Sun, donc elle avait acheté le 33 tours. Donc j'ai toujours eu ce disque à la maison. Et puis voilà. Et moi, mon jeu à l'époque, c'était... Il y a une chanson qui s'arrête brutalement en face A. C'est I Want You, She's So Heavy. Et j'essaie de deviner à quel moment la chanson allait s'arrêter quand j'étais petit, quand j'avais 4 ans. Et donc, du coup, cette chanson, c'est une des premières que j'ai écoutées des Beatles. Et puis, bah, en plus de ça, l'album est magnifique. Hein, c'est vraiment le chant du cygne des Beatles. L'album qui prouve que même dans les plus grandes périodes de tempête, ce groupe était capable de sortir des morceaux formidables. Donc, voilà, c'est la preuve, s'il en est, que les Beatles étaient les Mozart et les Schubert contemporains, quoi.
Ouais. Dans la pièce, à un moment, justement, il y a, dans un dialogue entre Paul et John, il y a cette idée que, en gros, on n'aurait jamais dû arrêter le live, les concerts. Et après, on a l'image, effectivement, des concerts avec, je crois que c'était le Shea Stadium, où le public hurlait en permanence, donc ils ne s'entendaient pas. Mais est-ce qu'il y a des éléments qui prouveraient que, bah, finalement, ils auraient bien aimé quand même revenir sur scène?
Non. Non, 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 non. En fait, ce qui se passe, c'est que c'était devenu insupportable, cette période de live. Pour eux, déjà, le rythme était staccanoviste, et puis c'était, c'était fatigant. Alors, ils jouaient pas longtemps, hein. Les concerts de Beatles, c'était 30 minutes, hein.
Ouais.
35 minutes, ils jouaient 6-7 morceaux, c'était fini. Alors, c'était vraiment un enchaînement. Et puis, en fait, ils jouaient mal, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, ils n'avaient aucun retour. Ringo était obligé de regarder dans quelle position était John pour savoir quel morceau il jouait. T'avais de vous dire à quel point on s'entendait plus, voilà, c'était plus de l'art du tout, c'était devenu la performance, et c'était devenu la performance à la chaîne.
Ouais.
Donc, il n'en était pas question, Paul aurait bien voulu, comme toujours, mais John a dit non, et c'est George qui a dit on arrête.
Voilà. Ouais.
Donc ils ont arrêté, ils ont bien fait, parce que, bah, du coup, ça, ils ont pu comme ça concentrer leur talent et leur créativité. Et alors, c'était ta deuxième question, est-ce qu'il y avait des signes qu'ils voulaient reprendre les concerts? Pas vraiment. De toute façon, tout a commencé à se déliter à peu près à ce moment-là, donc il était de moins en moins question de faire des concerts comme des potes. Et le concert qu'ils font sur le toit, c'est presque un peu par défaut qu'ils le font, parce que, c'est pas par défaut en vrai. Ils voulaient vraiment monter un concert, voilà, alors ils pensaient faire ça en Turquie, dans le désert, ou je sais plus où, tout un projet, finalement ils ont fait ça sur le toit de studio d'Apple. Vous voyez, c'était un challenge pour eux d'aller jouer, d'aller faire un concert.
Ouais.
Et on le voit dans le documentaire de... dans le documentaire Get Back là,
ouais.
Qu'en fait ils ont tous assez peur, hein, de reperformer live, c'est devenu quelque chose loin d'eux en fait. Ouais. Donc ils ont fait le dernier concert sur le toit. Ils ont joué 4-5 morceaux qu'ils ont joué 2 ou 3 fois chaque.
Ouais.
Mais que ça représentait quand même un challenge pour eux, voilà. Donc il n'y avait pas, en tout cas, c'était plutôt rien de se demander ce qu'ils allaient devenir.
Et alors, mis à part les Beatles, est-ce que tu as eu d'autres chocs musicaux dans ta vie?
D'autres chocs musicaux
qui t'ont marqué?
Pas aussi intense que les Beatles.
Aussi intense,
ouais. Pas aussi fort, et puis voilà, parce que je pense que c'est des phénomènes culturels qui ne se produisent qu'une fois par siècle quasiment. Hein. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exemples comme eux de gens qui ont été constamment bons sur la durée, comme ça, sur une durée de plusieurs années.
Ouais.
Mais comme je suis sur cette période pas mal, j'ai quand même écouté les Stones. Il y a quand même des morceaux des Stones étonnants, des morceaux de Pink Floyd aussi très étonnants. Tu parlais de Lou Reed, voilà, il y a la période Transformer de Lou Reed, même des Velvet. Voilà, c'était vraiment des gens qui osaient innover, proposer des nouvelles choses.
Oui.
Donc, qu'est-ce que je peux. Ouais, il y a d'autres essais britanniques d'ailleurs, des gens qui innovent. Moi, j'aime beaucoup Kate Bush. J'ai écouté Kate Bush hier.
Oui.
Son best-of. Et j'étais tombé amoureux de Kate Bush, son premier album. Ouais. Et j'ai trouvé que son premier disque était étonnant de nouveautés. Elle a. C'est qui a écrit Wuthering Heights, une très jolie chanson.
Ah oui, très beau.
Alors, elle est facile à écouter, hein, c'est un peu easy listening. Mais en termes d'harmonie, Kate Bush était étonnant, cette jeune fille de 20 ans, là.
Ouais.
elle vous sort un morceau complètement contre-courant de l'époque. On est en 78, c'est des punks.
C'est des punks.
Sur la fin des punks, on est au début de la New Wave. Elle vous sort un morceau et des violons derrière. Et une voix au perché comme ça. Et enfin, les gens qui sont à contre-courant comme ça, qui osent faire ça, qui n'ont rien à foutre de ce qu'on écoute en ce moment et qui vous pondent des trucs comme ça. Étonnant la personnalité de cette fille qui, toute jeune comme ça, faisait sa loi dans les studios et disait non, je veux pas ça. Il lui disait non, Wuthering Heights c'est pas assez commercial, il faut mettre Kite. Non, je vais mettre Wuthering Heights, sinon vous aurez rien du tout. Elle a gagné, elle était numéro 1 avec ça.
Ah ouais. Ouais, cette force de l'artiste qui impose ses choix, qui se laisse pas dicter son...
Ouais, voilà, qui a une volonté, une assurance incroyable. Et en plus, c'est une des premières artistes féminines à composer tout simplement.
Ouais.
Ouais, c'est mieux d'hommes, quoi. Voilà, les femmes. C'est intéressant comme les femmes compositrices.
Ouais.
Il a fait des Joni Mitchell ou des Gressings pour commencer un peu le règne des femmes, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile pour elle. Voilà. Donc Kate Bush, ouais, je pense que je choisirais Kate Bush. Ouais. Ouais.
Alors on va passer à une autre une petite interview express, 4-5 questions, pas piège du tout. Si tu devais garder qu'un seul album de toute ta collection, de que ce soit de vinyle, de cassette, de MP3, de machin, etc., qu'est-ce que tu garderais ? Je sais pas, tu vois, genre on doit fuir invasion russe ou je ne sais pas quoi.
C'est très à propos. Oh bah j'ai pas changé, j'ai resté cohérent à Bay Road. Hein.
Bay Road.
Et voilà. Ouais. Mon vieux vinyle de la Bay Road, il faudrait que j'aie le matériel pour l'écouter, mais avec les petits crépinements du temps. Hein.
Ouais.
Tout ça le rend précieux à mes oreilles. Ouais.
Et s'il y avait qu'un seul titre à sauver, voilà, tu dois faire un choix crucial, on dit voilà, c'est il y a un seul morceau que tu dois emporter avec toi, c'est quoi ?
Des Beatles ?
Des Beatles ou autre, d'ailleurs, mais ça peut être les Beatles. Que
mais qui peut choisir un, qui peut faire
c'est impossible, je sais, c'est un choix absolument ignoble.
Ouais. Eh ben, je choisirais une chanson méconnue, injustement méconnue des Beatles, qui s'appelle Rain.
Ah oui, je
l'ai la phase B de Paperback Writers.
D'accord.
Qui est sur le début du psychédélisme, qui est un morceau remarquable de John, que j'ai mis tout le monde à écouter, avec une batterie sensationnelle de Ringo, qui était un formidable batteur, se dit en passant. Pas juste un rigolo. Vraiment un gars avec un sens du tempo et un novateur en termes de rythme et de ligne de batterie. Rain des Beatles.
Rain des Beatles, ouais. Est-ce qu'il y a des sons, des musiques, un album qui te plonge, qui te met complètement down, à chaque fois que tu entends ça, tu passes dans un état de dépression, de déprime absolue.
Ah, de déprime absolue.
Ou tristesse insondable, enfin vraiment le truc qui t'abat.
Oh, je pense que n'importe quel morceau de Radiohead peut vous plonger dans un état de déprime. Ceci dit, c'est très beau Radiohead.
Oui, c'est très beau, c'est très beau.
C'est très beau, mais alors qu'est-ce que c'est la déprime ? Ils sont toujours en mode mineur.
Oui.
En permanence.
Oui, on sent que Thom Yorke n'est pas un garçon très joyeux quand même.
Non, j'espère qu'il a un peu travaillé dessus avec le temps, mais non, c'est pas. Et c'est sûr, quand j'écoute, c'est lequel ? OK Computer,
oui.
Leur dernier album de leur phase classique, on va dire, en qui rentre dans l'électro. Ouais, quand on écoute OK Computer, c'est pas la joie à la joie. Quoi.
Non, c'est clair.
Mais c'est très beau.
C'est très beau. Ouais. Ouais. Et alors justement, une fois qu'on est bien down, en fait, que t'es bien down, qu'est-ce que t'écoutes pour remonter à la surface, pour te redonner de la joie ?
Un truc qui bouge bien, comme aussi pour aller courir. Si je suis pas bien dans cet état-là, moi je sors courir un bon coup. Et je me mets souvent de la synth-pop des années 80.
Ouais.
Et voilà, et un truc bien con, là, du genre... Jermaine Jackson et Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, hop, c'est un truc qui va bien, bien vite. Un morceau de disco, I Am What I Am de Gloria Gaynor, un peu de disco rapide, Kung Fu Fighting, Carl Smith, des morceaux vraiment classiques, mais qui rendent joyeux. Ah, si, un groupe écossais qui a fait des bonbons tubes, repris après, c'est un groupe qui s'appelle Middle of the Road.
Ouais.
Et ils ont fait la version anglaise des Rois Mages en Galilée, là, de Sheila. Enfin, c'est eux qui ont fait la force morceau original.
Ah oui, d'accord.
Et Sheila a traduit ça en français. Enfin, là, je ne sais pas, les paroliers. Mais ils font des très bons morceaux, très joyeux, avec du piano, de la batterie, tout ça. C'était des excellents musiciens. Middle of the Road. Ouais, des Écossais du début des années 70.
Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux pas écouter, des sons qui vraiment déclenchent chez toi une répulsion, une allergie profonde?
Non, il n'y a rien qui provoque d'allergie chez moi, une indifférence, oui. J'aime pas trop l'électro, je suis pas sensible à ça, je n'aime pas trop le côté répétitif de l'électro. Mmh. Et je trouve que soit l'électro est agressif, soit au contraire, c'est très plat, et enfin, je trouve ça. Oui. Un peu plat, un peu. Voilà, c'est un peu méditatif quand c'est calme. Mais il y a un groupe que j'ai jamais réussi à aimer, c'est Daft Punk. Oui. Alors, eux, je trouve leur son agressif. Voilà, le ouin, 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 ouin. Je trouve que c'est un son qui n'est pas agréable, à les oreilles en tout cas. Et je vois pas l'intérêt de répéter around the world pendant des minutes et des minutes. Je vois pas l'intérêt de ça. Donc, j'ai jamais compris le succès qu'ils avaient. Mais ils ont sûrement du talent, puisque ils ont du succès, ils sont proclamés partout sur Terre. Donc. Mais je n'arrive pas avec eux.
Ouais. Voilà. Ah, t'en as cité quelques-uns dans ta bande-son quand tu vas courir, mais est-ce qu'il y a vraiment des plaisirs coupables, des trucs vraiment cachés bien dans ta discothèque, ou quand tu les écoutes publiquement, ton entourage te regarde avec ce petit air, oula, il écoute ça.
Ah ouais, alors attends. Bah, Kate Bush, ça fait souvent sourire parce que bon, bah, c'est un peu de la musique douce, quoi. Donc, je dis, bah, rien de foutre, j'aime bien Wuthering Heights, c'est une de mes chansons préférées. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai comme morceau? Alors, c'est pas forcément des artistes, mais il y a des morceaux que je trouve. Moi, Patrick Sébastien, les Sardines, je trouve ça super, quoi.
Ça rentre bien dans la tête, en tout cas.
Ouais, et puis c'est joyeux, et puis les mélodies, elles sont assez efficaces. Finalement, les paroles, elles sont plutôt rigolotes, et plutôt bien foutues. Ils décrivent ce que c'est que de se serrer, puis hop, de se desserrer dans un groupe. C'est bien foutu. Moi, quand tu me la passes en boîte, je danse dessus comme un con. Hein. Les Sardines, j'aime bien ça, quoi. Donc ouais, c'est un exemple de choses un peu stupides que les gens ont... Qu'est-ce qui lui prend à lui d'écouter ça? Ouais. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais te répondre? Moi, c'est quelques exemples comme ça.
Ouais. Ouais. Et sinon, hormis John et Paul, est-ce qu'il y a des artistes que tu places?
Ah, si. J'aime bien Rondo Veneziano aussi.
Ah ouais.
Tu te
rappelles? Ah oui, ça c'est du lourd, Rondo Veneziano. Ouais.
C'était. Je n'ai pas fait mon temps à écouter ça, mais il y a des morceaux que j'aime bien. Et c'est du violon avec de la batterie et de la basse derrière.
Ouais, le classique pour les nuls, quoi. Enfin,
c'est du Vivaldi de supermarché.
Ouais, c'est ça.
Et ils te mettent ça, et il y a des morceaux comme c'est péchu. Moi, j'écoute ça en courant, Rondo Veneziano.
Magnifique.
Voilà. Je fais bien la teuron, ça.
Ouais. Et alors, donc, je disais, ouais, pour la dernière question, hormis John et Paul, donc, est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu places vraiment aussi au sommet de ton panthéon personnel, justement dans cette mouvance pop rock?
Cette mouvance pop rock. Donc, on va partir sur cette époque-là. Keith et Mick, hein, quand même. Ouais. Là, eux, ils ont une histoire encore plus particulière, c'est que, en fait, ils composaient pas, puis c'était pas eux les leaders du groupe, donc ils avaient pas un destin de compositeur. Ouais. Et puis un jour, leur producteur les a enfermés, ils ont dit, vous sortez pas de là, on va faire trois chansons. Donc, bien obligés, ils ont composé trois chansons, dont Satisfaction. Ouais. Donc, je trouve que le côté, on s'y met ou sinon on disparaît. Ouais. Je trouve ça épatant, quoi, et qu'ils aient réussi par obstination à devenir de formidables compositeurs et de créer leur style, d'assumer leur style et tout, tout ça.
C'est vrai qu'il y aurait matière pour faire une autre pièce, Mick et Keith.
Ouais, mais il y a, je sais pas, je connais moins les Stones, mais j'ai l'impression que leur histoire personnelle est moins. Et comme ils sont toujours ensemble et que ils ont fait comme tout le monde, ils ont eu au débat, mais il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une période qui serait propice à un drama ou quelque chose de ou un scénario, une histoire, vraiment.
Ouais, c'est plus Brian Jones, le personnage tragique de l'histoire.
Oui, voilà. Alors, ouais, on pourrait faire un monologue Brian Jones, effectivement. Le gars qui perd les manettes, qui s'est bouffé par sa faute. Hein, c'est vraiment le gars, il s'est autodétruit, quoi. On dit souvent le pauvre, il était victime de Mick et Keith qui l'ont écrasé et tout. Bah non, mec, tu prends de la drogue, tu commences à planer, tu prends soin de ton look, tu regardes un peu. Tu t'intéresses pas trop à ce que tu écris, tu t'y mets jamais. Bah, au bout d'un moment, les gens s'y mettent à ta place, quoi. Donc, il n'y a pas de secret, quoi. Donc, après, on peut imaginer ce gars en train de se déliter et puis, effectivement, en train de s'effondrer, ça pourrait faire un joli monologue, effectivement. Mick et Keith, ils s'aiment pas. Ouais, ils se brouillent des fois. Il y en a qui a fait passer par la fenêtre à cause de l'autre, d'ailleurs. Je sais, pour des raisons de chemise, je sais pas quoi. Enfin, il y a Mick qui a poussé Keith par la fenêtre, il s'est rattrapé au dernier moment. On a frôlé la catastrophe. Mais c'est des gars, voilà. Mais il n'y a pas des clashs énormes. Non. Preuve en est, c'est un groupe qui s'est jamais séparé.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, soit ils ont été virés, soit ils sont morts, mais il n'y a pas eu. Oui, la marque reste.
Ou ils sont partis, hein, comme le.
Oui, ils sont partis.
Les Wayman, hein. Mais il n'y a pas eu de voilà, il n'y a pas eu de. On arrête tout, je ne peux plus vous voir. Donc, voilà, il n'y a plus ce côté bam-bam de clash irréversible.
Ouais. Les frères Gallagher, ça pourrait être marrant.
Les frères Gallagher, ça pourrait être intéressant, c'est vrai. Alors, c'est tellement, tellement Oasis, cette période de la Britpop des années 90, tellement quelque chose de fugace, ça n'a pas duré longtemps. Hein.
Ah non, ça n'a pas duré longtemps, et puis c'est vrai que, en termes de composition, là, ça va faire hurler, moi, je trouve que ça n'atteint pas le niveau des Beatles ou des Stones, ce qu'on a pu écouter dans les années 70. Quoi.
Non, c'est vraiment un truc de rattrapage. Non, mais en plus, c'est centré sur une année, 1995, l'année de la Britpop, alors Blur, Oasis et Pulp un peu.
Ouais.
Entre les trois, je préfère Pulp. Hein.
Et moi aussi.
Je trouve que Different, toi aussi.
C'est un peu plus... Oui, parce que musicalement, je trouve ça beaucoup plus riche, en fait. Blur est intéressant, mais bon, ça... Et voilà, et Oasis, je suis vraiment complètement passé à côté.
Bah, quand j'écoute des morceaux d'Oasis, j'ai l'impression que le disque est passé au ralenti, en fait. Essaye de mettre un peu un disque d'Oasis, j'ai l'impression que le disque, il est en moins 0,5, c'est-à-dire que le disque, il est en ralenti, quoi.
Peut-être que si on joue à l'envers, on entend des messages subliminaux.
Je sais pas, mais c'est lent. Alors il y a du bruit et tout, c'est saturé, mais putain, c'est lent. Alors que Pulp, il y a une singularité chez eux. Ben voilà, c'est encore un groupe. Je sais pas, c'est Pulp, il n'y a rien qui ressemble.
Non, c'est vrai que c'est la grande tradition de pop anglaise. Avec des compositions, avec des mélodies, avec des choses qui sont plus intéressantes, en fait.
Bah, y a du clavier, il y a un peu de synthé, il y a cette voix, ce personnage-là de Jarvis Cocker, cette espèce de dandy des gains comme ça, tout qui se trémousse, là, tout resserré à la fois sur lui-même avec ses bras, comme ça, là, en train de se dandiner. Donc, Pulp, c'est étonnant. Très rapide aussi, mais étonnant.
Ouais. Bon, ça sera le mot de la fin. En tout cas, Germain, je te remercie pour cet échange. Donc, je rappelle le titre de la pièce, Lennon et McCartney.
Ça se joue au Funambule. Lennon et McCartney, au Funambule. Donc, tête du Funambule, c'est rue des Saules, c'est derrière la butte Montmartre, métro Lamarck Collincourt, jusqu'au 9 juin, du jeudi au dimanche. Voilà.
Parfait. Eh bien, écoute, voilà. Merci beaucoup. Et donc,
merci à toi,
Antoine. Lennon et McCartney.
À bientôt, tout le monde. Bonne journée.
Volume sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquoy. La musique du générique a été composée par Nezik. Pour plus d'informations, ou pour écouter les épisodes précédents, retrouvez-moi sur mon site, levolumesur11.com.